Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante en ce 27 décembre 2021. Et oui, à l'approche de la dernière, c'est la dernière semaine de l'année 2021. On est ensemble en live sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission qui est Time Sport. 20h-21h, c'est le créneau horaire de votre émission, votre quotidienne sur votre radio de la diversité, Beurre FM. Ce soir au menu, on reviendra, et oui, sur ce coup dur, une pensée sincère pour le peuple algérien, mais aussi le football algérien et le joueur Sofiane Lokar qui est mort sur le terrain. Al-Rahmo à lui et nos pensées sincères à sa famille, à ses proches et à tous les amoureux du football. On reviendra sur cet événement tragique. Nous parlerons aussi dans cette émission d'un début de folie, peut-être avec le Boxing Day du côté de la Premier League en Angleterre, sans oublier le Paris Saint-Germain qui veut vendre ses fameux indésirables. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Giovanni, à la réalisation, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne. On n'oublie pas l'invité de ce soir pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM, monsieur Eli Bop. Voilà, il répondra à nos questions. Allez, c'est parti avec le JT Sport de Jason.
Time Time Sport. Et oui, on démarre le JT du lundi par la tant attendue décision de la commission de discipline concernant le match arrêté entre le PFC et l'OL en Coupe de France. Verdict, élimination des deux équipes de la compétition. Huit clos de 5 matchs pour les Parisiens, plus 10 000 euros d'amende. Pour les Lyonnais, fermeture des parkages visiteurs jusqu'à la fin de saison, ainsi qu'une amende de 52 000 euros, plus remboursement des dégâts causés au stade Charletti. Ces sanctions permettent au passage à l'OGC Nice, initialement futur adversaire des deux clubs, de se qualifier directement en huitième de finale de la compétition. Une info transfert, Ferran Torres va bel et bien quitter Manchester City pour le FC Barcelone. L'attaquant espagnol devrait coûter plus de 50 millions d'euros et sera présenté dans quelques jours aux supporters catalans. Et enfin, on termine avec du rugby pour signaler que le stage de l'équipe de France U20, prévu à Rome début janvier, est annulé bien évidemment pour des raisons sanitaires. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On vous souhaite un bon début de semaine et une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Et merci Jason, voilà qui nous a rejoint à fond la caisse dans ce studio. Jason, notre rédacteur, bonsoir, comment ça va?
Ça va, ça va.
Ça va, tranquillement?
Ravi d'être avec vous comme d'habitude. Hein.
Ah ben nous aussi Jason, et il y a aussi Abdel qui fait son gros retour. Abdel nous avait manqué, comment ça va Abdel?
Ça va très bien, bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là.
Kamel, un tout nouveau, allez, qui rejoint l'équipe Time Sport, comment ça va Kamel?
Bonsoir Bilal, ça va très bien et toi?
Ça va très très bien Kamel, rapproche-toi juste un peu Kamel, en mode beau gosse, voilà, ça c'est pour les auditrices et les auditeurs, ils devront savoir cela, un bel homme, tout comme Juan José Dorado, grand amoureux du football espagnol, mais pas que Juan José, on a eu des annonces en plus ce soir,
oui,
mais des annonces bien mais et des annonces moins bien sur la planète football.
Hola, buenas tardes a todos. Effectivement, il y a des annonces et il va y en avoir dans les jours qui viennent puisque ouais. Le mercato commence en Espagne notamment à partir du 3 janvier jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc gros mercato qui s'annonce et pas uniquement qu'en France.
Ah ben ça promet en tout cas concernant ce mercato estival. Allez, le premier sujet de cette émission, on y va.
Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Footballeur algérien qui est décédé justement sur le terrain le jour de Noël après s'être effondré alors qu'il était capitaine du Mouloudia Saïda lors d'un match de deuxième division, faut le rappeler. Abdel, assez tragique justement le jour de Noël.
Ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre sur les terrains de foot. Malheureusement, c'est suite à un choc avec le gardien adverse qui a fait une mauvaise chute. Et ça s'est transformé malheureusement en crise cardiaque. Est-ce qu'on peut vraiment prévenir de ce genre d'incident? Je ne sais pas. Malheureusement, je pense qu'en Algérie, en deuxième division de championnat, pardon, ça peut être très compliqué d'avoir des tests ou de faire des tests avec la batterie, etc., pour voir comment l'état du cœur est. Et finalement, voilà, c'est quelque chose qui est assez tragique, mais qu'on peut pas prévenir.
Ouais, Kamel.
Ouais. Bah, alors, j'ai appris la nouvelle aussi.
Sur les réseaux sociaux, ça a fusé.
Et apparemment, il avait fait le malaise.
Alors.
Et ensuite, il a repris 10 minutes après, si j'ai bien compris.
Ouais. Ouais. Qui disait cela?
Il n'y a pas de procédure, enfin, de règlement.
On a vu quand même des images assez douloureuses pour tout le monde. Le massage cardiaque qui a été fait, c'est ça, Jason, hein?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'était compliqué.
Ouais, c'est compliqué pour tous.
Ouais, c'est vrai que ça a été aussi un peu, on va dire,
une chute au niveau des émotions, parce que dernièrement on sait que pour l'Algérie, voilà, il y a eu plein de bonnes choses qui se sont passées par rapport à la Coupe arabe, voilà. Le pays était content, il se passait des bonnes choses, en tout cas au niveau football. Et puis là,
l'Algérie avait remporté cette Coupe arabe.
Ouais, quelques jours après, tout le monde pleure un joueur du pays. Donc c'est vrai que c'est aussi dommage par rapport à l'ambiance qu'il y avait, en tout cas autour de l'équipe d'Algérie et de l'Algérie en général. Donc c'est compliqué, c'est compliqué.
Ouais, Juan Rosset.
Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment l'équipe, le staff médical l'a laissé rentrer sur le terrain.
Ouais,
quelques minutes, un choc. C'est un fait de jeu. Il perd pendant quelques instants connaissance. Il sort du terrain et 10 minutes après, on le laisse rentrer.
Ouais.
Alors, c'est peut-être parce que c'est la deuxième division et c'est pas la première division. C'est peut-être parce que c'est en Algérie et pas en France ou en Angleterre. J'en sais rien.
Ouais.
Mais la première question qu'on doit se poser, c'est comment on a laissé rentrer ce joueur à nouveau sur le terrain. Peu importe qu'il soit le capitaine, peu importe qu'il soit l'un des meilleurs joueurs. La réalité est qu'on n'aurait pas dû forcément le laisser rentrer sur le terrain après un choc comme celui qu'il a reçu. C'est un trauma crânien suivi d'un arrêt cardiaque.
Ouais.
Donc il y a une défaillance quelque part.
Coup dur. Abdel, avant de terminer.
Ce que dit Juan par rapport au fait que c'est une deuxième division, c'est, je pense que ça joue. C'est à Oran que ça s'est passé, dans le club d'Oran. Pour retracer un peu le truc, là-bas il y a des stades qui sont même pas été encore terminés. Ça fait 15 ans que ça dure. Donc avoir un bon staff médical en deuxième division, je pense que c'est le dernier de leurs soucis. Malheureusement, on fait pas assez attention à ce genre de procédure. Et malheureusement, quand on voit que dans des clubs aujourd'hui qui évoluent dans les premières divisions, on arrive encore à avoir des incidents, c'est pas en deuxième division algérienne que ça sera développé. Malheureusement, c'est difficile à
accepter. Droit, hein, Abdel,
mais c'est la vérité.
Ouais. Peut-être le coach Etolé, avant de terminer.
Bonsoir tout le monde. Oui.
Bonsoir le coach Etolé.
C'est triste.
Tragique. Ouais. Pour le football.
Tragique pour l'ensemble du football.
Pour les proches.
Juan Rosset disait, c'est vrai qu'on se pose la question. Moi, je me pose surtout la question sur la prévention. Je parle des ce sont les terrains en général. On met tellement en avant l'enjeu passe tellement avant les athlètes qu'on en oublie l'essentiel. Et la première des choses, c'est déjà que les joueurs et joueuses soient en bonne santé, dans les meilleures conditions pour aborder un match, même si malheureusement tu peux avoir ce type de situation dans n'importe quel cas. Prévention avant tout.
Ouais.
Juste rappeler que 48 heures avant, c'est un hockeyeur allemand de 18 ans qui est décédé. Et pareil, lors d'un match, choc contre la barrière. Lui, il a été transporté à l'hôpital. On l'a pas fait rentrer sur le terrain.
Ouais.
On l'a amené à l'hôpital. Il est mort 48 heures après dans un hôpital allemand. Donc ça peut arriver, on le sait. Mais encore une fois, il va falloir effectivement prévenir ce type de comportement. Et si on n'a pas le staff médical adéquat, surtout pas laisser rentrer un joueur à nouveau sur le terrain, qu'il soit algérien, espagnol, français ou allemand.
Bien sûr. Merci messieurs. Justement, une pensée sincère à la famille et aussi aux amis, aux membres du staff de ce club où jouait Sofiane Lokar. Voilà, Benahmo. Et paix à son âme, nous allons enchaîner avec le second sujet de cette émission concernant, cette Coupe de France avec ces deux équipes, le PFC, Paris FC et l'Olympique Lyonnais.
Time Sport. La troisième mi-temps.
On a Mamadou, justement. Allez, qui clash un peu le code tollé. Il espère qu'il va se poser un peu plus de questions, là, avec ce sujet-là. Incident à Paris. Incident avec ce match Paris FC Olympique Lyonnais. Les deux clubs, justement, déclarés perdants, mais aussi éliminés de cette compétition qui est la fameuse Coupe de France des zones. On en dit un peu trop ou pas du tout?
Non, pas trop.
Ouais.
Enfin, c'est énormément de choses, donc je pense pas qu'en une phrase t'en aies dit trop, mais je trouve que personnellement, c'est dur pour le PFC. Je pense que c'est dur et dommage.
Un peu le petit poussé de cette rencontre.
Quand on regarde la physionomie de cette première mi-temps, comment ça se déroulait avec l'ambiance, il y avait un coup à jouer. Il y avait clairement un coup à jouer. C'est dommage. Après, bon, c'est tout ce qui s'est passé derrière. Mais je trouve ça dur pour le PFC, surtout. Lyon, avec tout ce qui se passe pour eux en ce moment, je pense que c'était inévitable. L'élimination était inévitable, mais de voir le PFC qui prenne cher aussi, c'est dommage.
Oui, Abdel.
Ouais.
Alors, contre C.
Ouais, par rapport à.
Ouais, je sais pas.
Aux sanctions, c'est vrai que il y a le même nombre de matchs de à huis clos, mais la différence d'amende est pas pareille. Il y a 52 000 euros pour Lyon et 10 000 euros pour le PFC. Est-ce que finalement, ça voudrait pas dire que Lyon est un peu plus fautif et qu'ils ont voulu les sanctionner à hauteur à hauteur financière un peu plus large? Mais je pense que voilà, comme ça a été dit, au PFC, il y avait plus de ils ont beaucoup à perdre, dans le sens où c'est un club aussi qui fait jouer, on va dire, beaucoup de jeunes, et qui avait beaucoup de scouts qui étaient venus assister au match. Donc ça reste quand même une vitrine pour eux. Pour moi personnellement, avoir assisté à des matchs à Charletti, c'est pas non plus monnaie courante de voir ce genre d'incident. Après voilà, comme il a dit Jason, Lyon est quand même coutumé du fait depuis le début de saison, et malheureusement ils en payent les pots cassés, on va dire. Mais les deux sont éliminés, donc je trouve pas ça forcément juste. Mais comme on voit les décisions qui sont prises depuis quelques temps, il n'y a pas vraiment de logique qui est faite.
Une logique a été faite peut-être, Kamel.
Bah, je pense qu'avec le contexte actuel.
À Christian Etter, on est toujours dedans.
C'est ça. Ouais. Et surtout des violences qu'on a eu l'habitude de voir depuis le début de saison. Je pense que la fédération a voulu taper fort.
Ouais.
Pour éviter à l'avenir de.
Élimination directe. Oui, c'est ça, ça fait sourire. Oui, peut-être entre C. C'est vrai. Oui. Ça a tapé fort, là, quand même.
Non, les deux clubs. Vous trouvez que 50 000 euros pour Lyon, c'est tapé fort?
Oui. Élimination directe.
C'est
direct,
la petite monnaie pour Lyon, mais vous racontez quoi? C'est peut-être plus dur les 10 000 euros pour le Paris FC que les 52 000 pour nos amis lyonnais. Alors, moi, je me pose encore des questions.
Alors?
Et si au lieu d'être le Paris FC, ça avait été à Nice-Lyon, deux équipes des premières divisions, est-ce qu'ils auraient foutu à la porte? Les deux?
Peut-être.
Tu crois? Moi, je crois pas du tout. Là, on a voulu c'est taper un peu sur Olas à nouveau, parce qu'il avait été sanctionné quelques jours auparavant. Mais c'est pas normal non plus. Te dis, si c'était deux équipes des premières divisions, on les aurait pas sortis de la compète.
Ah oui, carrément.
On aurait fait rejouer le match, la mi-temps, tout ce que tu veux.
Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, personne ne serait sorti.
Personne. Mais c'est le Paris FC.
Ouais.
Alors,
faut respecter le Paris FC. C'est pas aussi. Mal, hein. On avait eu en plus des personnes du Paris FC, le Côte Tolé est d'accord avec ça. Le Paris FC, cette rencontre, alors justement, ça fait jaser sur les réseaux sociaux, hein. Ça parle beaucoup. Ouais. On en voulait au petit poussé.
Pour moi, Lyon s'en sort bien. Hein.
Ouais.
Pour moi, Lyon s'en sort
bien. Les Lyonnais.
De toute façon, moi, je vais plus loin. Le problème, c'est au niveau des instances. À partir du moment où tu as le président Olas qui a fait des choses extraordinaires durant quasiment 30 ans à la tête de l'Olympique Lyonnais, ça, je ne remets pas en cause. Mais à partir du moment où il a énormément d'influence, je pense qu'il y a lui et beaucoup de personnes, bah forcément, tu te retrouves avec Lyon qui s'en sort pas trop mal. Moi, pour moi, ils s'en sortent relativement bien. Le match contre l'OM est à rejouer à huis clos. Pourquoi il est à rejouer dans ce cas-là? Pourquoi celui-là et pourquoi il n'est pas? Pourquoi il n'y a pas match perdu?
On comprend pas.
Je pense que c'est à Lyon.
Pour question se poser, Kamel aussi se les pose.
Je pense que ça les arrange.
Jason.
Par rapport, on parlait de contexte sanitaire.
Ouais.
En plus, on arrive dans une trêve hivernale.
Ouais. Pour certains.
Match. Où est-ce que tu le mets le match? C'est la trêve.
Ils vont. Enfin, mais tu le mets pas. Mais tu le mets pas.
Ça les arrange un
peu. Tu dois sanctionner. On sanctionne.
Qu'est-ce que la sanction? Ouais. Retrousser le disait. On parlait.
Tu vas au Paris FC à Charletti, il se passe rien actuellement. Il se passe rien. Il y a c'est quand il y a une ou deux saisons, t'avais 6000 Lensois qui sont déplacés.
Ouais, pour les barrages, ouais.
Il s'est rien passé. Est-ce que le PFC est coutumier du fait? Est-ce qu'on entend des histoires avec le PFC où il y a des débordements?
Ouais, jamais.
Bah, voilà, bah, pourquoi
ça se passe bien?
Non, mais la même solution avec que Lyonnais que l'on entend un petit peu trop depuis un petit moment.
Ouais.
Par rapport à la puissance du président et les choses qu'il a faites, peut-être que certains Lyonnais et même supporters se pensent peut-être libres de tout faire, malheureusement. Mais après, quand Juan José, il était assez énervé par rapport aux sanctions, dans le sens
où alors
50 000 euros, c'est peu.
Ouais,
c'est vrai, mais
je
trouve qu'ils ont essayé un peu d'égaliser le truc, mais ça aurait pas dû.
Comment tu vas
pas
dans le même cours,
Non, mais quand je te dis égaliser, je te dis que par rapport au nombre de matchs, après, au niveau de la sanction financière, c'est vrai que. Ils ont le club le plus riche a pris plus de plus de sanctions, mais malheureusement, Jason dit qu'il y a le contexte sanitaire, mais tout ce qu'ils ont voulu mettre en vigueur, ça doit rentrer qu'en 2022, et c'est un match qui s'est joué en 2021 par rapport à ça, et je trouve que pour moi, le match, il aurait dû être au moins à rejouer, ouais, mais jamais aussi, hein. Le PFC doit être éliminé de la compétition, et je pense que Lyon, il y a beaucoup de passes droits dans le sens où ce qui a été fait comme on le répète par le passé, par le président, ça te laisse quand même un champ de marge assez libre quand tu te déplaces, et même comment ça a été organisé, c'est un déplacement qui est assez chaud entre guillemets. Ça a dit que les supporters, ils arrivent à 20h15 à la gare, alors que le match il est à 21h, tu sais, ils se déplacent comme ça, on sait pas trop comment ça s'est déroulé, et finalement voilà, il y a une équipe qui est sanctionnée pour moi à tort. Non.
Là où ils se sont fait avoir, ils se sont fait avoir, le PFC, malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de rencontre au risque.
Au niveau de la sécurité, oui.
En termes de sécurité.
Mais la sécurité extérieure dépend de la ville de Paris, de la préfecture de Paris.
C'est vrai.
C'est pas le Paris FC qui est responsable de la sécurité à l'extérieur. C'est pas eux. Pas du tout. Et donc, c'est lui qui est vraiment victime ici aujourd'hui, qui perd vraiment, c'est le Paris FC. Parce que s'il passe, au tour suivant, économiquement pour eux c'est très rentable, pour les jeunes joueurs qui sont là c'est construire un projet, continuer à construire un projet,
bien sûr.
Mais pour Lyon, mais c'est absolument rien, le fait d'être éliminé, ça veut rien dire pour eux, c'est la réalité, c'est comme ça.
Le retour du hooliganisme aussi,
tu en parlais la dernière fois aussi, le coach Tolé,
c'est une réalité,
et c'est aussi
faut dire que ça n'a jamais vraiment disparu. Hein, et là, t'as un rendez-vous. C'est-à-dire que là, le rendez-vous, il est déjà, mais bien sûr, depuis un petit moment. Est-ce que ce sont les supporters du PFC tous les samedis qui foutent le feu? Non. Là, ce sont les supporters lyonnais les plus chauds. Faut savoir que lorsque t'es amené à te déplacer à l'extérieur, ce sont en général les plus virulents, ceux qui mettent de la grosse ambiance, mais les plus virulents qui se déplacent également. Et puis, forcément, on se donne un rendez-vous avec certains
stades
parisiens. C'est aussi une raison dont on ne parle pas.
Vous restez avec nous. Merci le coach Tolé. On fait une courte pause avant de revenir avec Elibo, notre invité de ce soir.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Eh oui, Abdel, hein, c'est ça. Il fait beau, il fait froid. Enfin, ça dépend où on habite, hein. C'est bien ça le coach Tolé, hein.
C'est ça.
Ouais, c'est vrai.
Là, il fait doux.
Ouais, il fait doux.
J'ai repris un peu.
La dernière fois, il faisait très très froid.
Très très froid.
Il faut le rappeler. C'était vraiment. Hein, c'était très compliqué pour venir au studio et repartir, hein. Eh oui. Les nuits étaient glaciales. Eh oui, il y avait Jason aussi en plus. Juan José, on l'a vu qu'en début de semaine, il faisait un peu doux. Et après, il a arrêté de faire du.
Il a compris l'expérience. Ouais,
et c'est ça. Et Juan, il sait très très bien. Hein, il fait beau du côté de l'Espagne, c'est ça, Juan José?
Mieux qu'à Paris, je te l'assure. Alors ça, peut-être qu'à Marseille, ça se passe un peu mieux.
Je sais pas. Marseille, Nice, Toulon, Toulouse, Montpellier, il a plu aussi dernièrement. On nous écoute du côté de Montpellier.
Par contre, on sait que du côté de Lyon, c'est chaud.
Aïe, aïe, aïe. Lyon, c'est toujours chaud. Le 01-53-48-3000, si vous voulez réagir avec nous, avec Kamel, avec Abdel, Jason est de la partie, le coach Tolé, sans oublier Juan Trossé. On part avec notre invité, allez, de ce soir.
Time Sport. The Special One.
Eh oui, c'est notre Special One ce soir. C'est Eli Bob. Monsieur Eli Bob, comment allez-vous?
Merci, bonsoir, ça va?
Ça va très très bien. Ça va très très bien, monsieur.
Il y a des actualités à traiter.
Il y en a pas mal. C'est vrai qu'on a commencé avec le destin tragique de ce joueur algérien qui est décédé, malheureusement, Sofiane Loka, voilà. Et aussi, on a continué avec la Ligue 1 Uber Eats, elle y est dedans, que ce soit même la Ligue 2 ou encore cette fameuse Coupe de France. Et ces deux clubs éliminés. Avec le Paris FC et aussi l'Olympique Lyonnais. Un mot concernant cela, Eli Bob, avec nous ce soir.
Les sanctions, elles sont assez conséquentes, elles sont même fortes, et je pense que si on veut éradiquer le hooliganisme, entre guillemets, ou la violence à l'estade, il faut faire effort, hein.
C'est
la commission de la Fédération Française de Foot, elle tient beaucoup à son image, elle a tapé plus fort, que la commission, par exemple, de la Ligue de football pro.
Ouais. Peut-être une réaction avec Abdel. Eh oui, qui souriait. D'accord, peut-être avec Eli Bob.
Ouais, c'est ce que
on en parlait.
Ce que Claude disait, donc je pense que c'est la personne la plus à même d'aller sur ce sujet. Mais après, c'est vrai que il y a des sanctions qui ont été prises, mais très entre guillemets minimalistes par rapport à ce qu'on peut faire. Et si on compare avec d'autres pays, ce qui s'est passé, on est encore loin de des sanctions qui ont été réalisées là-bas. Donc, est-ce que le fait d'avoir changé de personne à la ligue ou dans les instances, ça peut permettre d'être plus dur? Ça, c'est sur la durée qu'on le verra.
Non, mais ce soir, c'est assez dur. Hein. Et là, il faut que les clubs ils fassent le ménage. Ça veut dire ça. Ça veut dire que chaque club doit enlever ses fouteurs de trous, ses violents de leurs supporters.
Et c'est dommage aussi par rapport
à Jason, avec les boss.
Ce qui me désole par rapport à tout ça, c'est aussi on a été privé de stade pendant des mois rapport à la situation sanitaire.
Oui, voilà, cette crise sanitaire.
Et etc. On revient dans les stades, on fait n'importe quoi en France. On fait n'importe quoi. On a ouvert les stades pour faire n'importe quoi. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que je comprends pas.
Cette violence, quoi. Elle est là, elle est présente et elle n'est pas à raison. Oui, Juan Crosset, on va poursuivre.
J'ai une question justement pour
alors, Juan Crosset.
Parce que comment expliquer ce qui se passe en France, puisqu'on ne voit pas, ni en Espagne, ni en Italie, ni en Angleterre, des stades fermés, des terrains envahis, des matchs qui sont interrompus à la mi-temps. Qu'est-ce qui se passe en France qui justifie que depuis le début de la saison, la France se distingue justement par un certain énervement dans les terrains de jeu?
Parce que dans certains groupes de supporters qui sont des ultras, il y a des violences, c'est pas tous, ils sont pas nombreux et ils viennent au stade pour manifester autre chose que pour le football. Et tant que les clubs n'auront pas fait le ménage et pris des sanctions envers ces gens, les interdire à vie de stade, ils n'auront pas de résultat. Il faut qu'ils soient aidés aussi par la loi française et il faut se recruter les matchs et faire ce travail qui a été fait par exemple en Angleterre ou dans d'autres pays. Il faut le faire aussi en France. Il y a trop d'attitudes qui sont très négatives, très violentes et il faut enlever tout ça du stade.
Est-ce que les mesures qui ont été prises, qui ont été décidées par le ministère de l'Intérieur avec la Fédé et la Ligue il y a une dizaine de jours, ce sont les bonnes décisions qui ont été prises ou pas? Ou il faut aller un peu plus loin? On a la sensation qu'en France, on a du mal effectivement à prendre des décisions comme elles ont été prises, notamment en Angleterre. Mais c'est vrai que l'Angleterre avait un triste record dans les années 80 côté violence. Mais est-ce pourquoi la France a du mal au niveau des instances justement à prendre ce type de décisions?
Je crois qu'avec ce qui se passe depuis le début de la saison, et voire même là, la fédération, vous dites que c'est pas fort, mais par exemple, le Paris FC, qui était le club organisateur, il va jouer 7 matchs à l'extérieur, et lui qui veut monter en première division, il est quand même pénalisé assez fort. Lyon est exclu de la Coupe de France comme Paris, et l'année prochaine, ils sont en sursis. Voilà, ils ont aussi d'autres antécédents avec ces groupes de supporters, avec ces énergumènes. Ils ont commencé depuis la semaine dernière à les identifier avec ce qu'il y a dans la vidéo. Et on est capable d'identifier les fauteurs de troubles. Il faut les exclure à vie du stade. Voilà, il faut que chaque club fasse le ménage avec ses supporters, sinon ça ne sortira pas. Et que les clubs soient accompagnés aussi par la loi française pour avoir le droit d'interdire.
Il y a de l'hypocrisie dans ces clubs parce qu'on sait très bien que avant chaque début de saison, avant chaque déplacement, il y a des réunions qui sont tenues avec les groupes de supporters.
Ouais.
Cela veut dire que tu as des responsables, cela veut dire qu'on est au courant des personnes qui sont amenées à se déplacer. Et donc moi, ce que je comprends pas, c'est comment ces présidents font comme si, voilà, ferment les yeux, minimisent. Alors que ce que l'on voit depuis le début de la saison, en tout cas en France, c'est extrêmement grave, comme l'a dit Juan Rosset, que ça soit à Nice, que ça soit à Lens lors du derby face au LOSC, à Angers également, face à Marseille, Saint-Étienne, enfin c'est quand même un support. Et en fait, on a le sentiment que débordement et on minimise. Non,
on se rappelle de Mars.
Là, vous faites des constats, je suis d'accord. Il y a vous constatez, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment faire pour qu'il y ait de la réaction? C'est pas les 10 000 euros ou les 54 000 euros.
Ah, bah bien sûr.
Qui vont arrêter les gens. Il n'y a qu'une chose, malheureusement, pour les sportifs, pour nous qui sommes du terrain, c'est que quand les sanctions sportives sont lourdes, quand il y a un retrait de points ou qu'on est éliminé d'une compétition comme là, la Coupe de France, qu'on oblige on admet dans l'handicap d'aller faire ces matchs à l'extérieur, qu'on joue à huis clos, voilà. Il y a que, malheureusement, en touchant le sportif, que les clubs vont réagir, parce qu'eux, ils sont là pour que les résultats sportifs, et si leurs propres supporters, certains membres de supporters, pénalisent sportivement l'équipe, eh bien là, il va y avoir des réactions fortes. Malheureusement, pour nous, les sportifs, on a du mal à l'admettre, mais il n'y a que ça qui va faire réagir.
Justement, on va parler après le football français, du moins de cette Coupe de France, de la Coupe d'Afrique des Nations. au Cameroun. Ah, ouais, ouais. Avec ces jeunes générations, ces formations, on va dire, à l'africaine, si je peux me permettre, avec une coupe arabe qui n'est pas passée inaperçue, notamment pour vous aussi, je crois, Ali Bob.
Ouais, j'ai bien aimé, puis j'ai regardé, parce que vous savez, la coupe arabe, c'est pas, tous les joueurs qui jouent en Europe n'étaient pas là, donc c'était ce qu'on peut appeler des locaux, voire des joueurs qui jouent aussi dans le golf. Et on a vu un très bon niveau, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait dans tous les pays qui ont participé, et donc ça va amener aussi de la concurrence par rapport aux joueurs qui sont en Europe pour la CAN. Certains joueurs qui ont fait la coupe arabe vont être sélectionnés dans les groupes pour faire la CAN, donc ça amène de concurrence et ça amène de l'élite, voilà.
Aussi, Abdel, oui, une réaction bonsoir, avec Ali Bob. Alors,
on voit dans votre parcours que vous avez coaché en France, là on parle de la CAN, vous avez jamais été approché par des sélections africaines ou vous avez jamais eu une envie de coacher une équipe africaine?
Ouais, quand vous avez des clubs qui se succèdent pour faire travailler en France, vous êtes habitué à ce championnat, la Ligue 1, vous continuez. Après, c'est sûr que c'est intéressant d'aller dans des sélections, voilà, il s'est arrivé quelquefois d'avoir des sélections, mais ça correspondait pas à des possibilités de ma carrière, voilà. Aujourd'hui, par contre, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais quand j'étais en situation avec les clubs, c'était pas la même approche que je pouvais avoir.
Et je continue, désolé, mais du coup, on sait que vous avez, Bilal en parlait, vous avez suivi un peu la Coupe du Monde arabe. Là, la CAN se profile. Quel est pour vous le favori de cette compétition?
Quand vous voyez une équipe comme l'Algérie qui a gagné la CAN avant, qui a une attitude aussi sportive, il y a du jeu, c'est une équipe qui est disciplinée, qui travaille beaucoup avec Belmadi, elle arrive à la fois à lier ses qualités techniques, de vitesse, de jeu offensif avec de la rigueur collective. Il faut souligner avant tout que le niveau de la CAN, il est en train d'augmenter. D'ailleurs, les meilleurs joueurs anglais, les meilleurs buteurs vont participer. Donc, plus, encore une fois, des locaux, des gens qui se plient du collectif. Donc, le niveau est de plus en plus intéressant. Les favoris, au départ, on a tendance à dire l'Algérie, puisqu'elle a gagné.
Ouais.
On peut compter, si on l'a vu, avec la Tunisie.
Ouais. Bah, d'autres nations,
hein. Il y a beaucoup de nations, hein, la Côte d'Ivoire,
faire attention,
l'Égypte,
hein.
Toujours l'Égypte, bon, il y a beaucoup d'équipes de haut niveau.
Ouais.
Et justement, par rapport au football africain, Eli, je voulais savoir un peu votre sentiment. Par rapport à la Coupe du Monde, on sait que dernièrement, il y a eu quelques débats. On sait que les pays africains sont pas encore qualifiés. Il y a des barrages à passer en mars. Je voulais juste avoir un peu votre point de vue, votre ressenti par rapport au fait que malheureusement, ça dépend des points de vue, mais le fait que les premiers de chaque poule en Afrique, certains qui ont cartonné, se retrouvent en barrage et ça, par exemple
un peu comme les points pour la Ligue des Champions ou l'UEFA,
c'est un peu ça là,
des points. Par exemple, il peut y avoir je sais pas, en Belgique ou au Portugal ou même en France, trois équipes super à un moment donné, et bien elles vont être tributaires d'un passé, d'une histoire par rapport à la compétition. Et la Coupe du Monde, c'est un peu pareil, il y a et justement aujourd'hui, par le biais de la CAN qui montre des niveaux qui va de plus en plus haut, il faut que quand les équipes vont être qualifiées à Coupe du Monde, qu'elles cumulent des points, qu'elles fassent des parcours intéressants pour permettre à d'autres équipes de venir. Mmh. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui aujourd'hui se remportent des participations aux Coupes du Monde.
Eli, justement, en parlant des équipes africaines, mais pas que, quel est votre avis sur cette mesure qui va être votée au mois de mars prochain, une Coupe du Monde tous les deux ans à 48 équipes. Donc il y aura plus d'équipes africaines, peut-être 6 au lieu de 5, peut-être 7 au lieu de 5, on ne sait pas. Mais quel est votre avis justement sur cette Coupe du Monde à 48 équipes qui va être proposée donc pour le mois de mars prochain, qui normalement devrait être votée?
Que le nombre augmente, pourquoi pas, que ce soit tous les deux ans, non. Je ne sais pas si dans votre question, vous m'avez demandé si j'étais pour la Coupe du Monde tous les deux ans. Moi, je suis pour la Coupe du Monde tous les quatre ans. Et si on veut que ce soit quelque chose, justement, d'élitiste, quelque chose de très haut niveau, il faut que ce soit unique, que tous les quatre ans, c'est formidable. les joueurs qu'on se prépare. Tous les deux ans, on va banaliser.
Et ça, on en perdra le goût, oui.
Et ça va être banalisé. Les joueurs abusent avec tout ce qu'ils font. On n'en finit pas. Trois coupes d'Europe, des coupes, des championnats, des matchs de partout. On rajoute toujours des matchs. C'est pas des machines. Hein. Il faut aussi passer aux joueurs, les protéger. Et si on veut voir des choses spectaculaires, de qualité, si on veut que le foot garde son essence, sa qualité, il faut rester tous les quatre ans.
On va terminer, Eddie Bob, notre invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM, avec pourquoi pas ces clubs français, oui, mais aussi des clubs européens. Juan Trossé,
oui, la Champions League est bien là. Je voulais justement l'écouter.
Il consulte aussi, Eddie Bob, faut le rappeler, oui, sur chez nos confrères d'Amazon. Hein,
bah, voilà, je voulais justement lui poser une question très personnelle. Alors comment vivez-vous le parcours de Bordeaux cette année en Ligue 1? Comment expliquer les méperformances des Bordeaux?
Eh oui, les Bordelais.
Moi, c'est une souffrance, entre guillemets, hein, parce que je ne suis pas concerné, mais malgré tout, on est attaché à ce club. Je suis attaché à ce club, puisque je l'ai entraîné pendant 7 saisons, avec une époque où on avait beaucoup de résultats positifs. Bon, importe peu, il y en a eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après, résultats positifs. Mais aujourd'hui, on est tous en observation, assez triste, parce que c'est un déclin progressif. Ça a commencé avec King Street. Là, il y a M. Lopez qui a racheté pour permettre de rester en Ligue 1, parce que sinon, on voyait le club jouer en National. Donc, il reste là, mais on n'a pas gommé toutes ces carats, toutes ces difficultés depuis le début de saison, même s'il y a un très bon entraîneur. Mais aujourd'hui, c'est très dur. Il lutte pour le maintien, parce que jusqu'au bout, ça va se jouer.
Il y a Bordeaux donc qui est mal classé, mais il y a l'arrivée donc du nouveau président Lopez. C'est vrai que quand il est arrivé du côté des Lille, ça a été aussi compliqué la première année. C'est un projet, je dirais pas à longue haleine, parce que en première division on a besoin d'avoir des résultats assez rapidement, mais avec le groupe actuel et quelques changements qui pourraient être apportés et l'arrivée d'argent frais, vous croyez que le Bordeaux qu'on a connu il y a quelques ans peut récupérer justement la place qui est la sienne, qui était toujours la sienne en Ligue 1?
Je crois qu'aujourd'hui le club est en reconstruction totale, et comme vous l'avez bien souligné, cette année il faut arriver à se maintenir pour bâtir ensuite quelque chose, ce qu'il a fait à Lille, vous l'avez bien souligné. Mais Bordeaux, c'est encore plus profond, c'est un problème de fond, que ce soit pour la formation, pour le recrutement, pour l'équipe pro. Il faut mettre en place un projet sportif à moyen terme ou à long terme. Mais d'abord, il faut faire attention à la vague actuelle, à la tempête actuelle, pour se maintenir et puis mettre en place
un projet.
Et pour ça, il n'y a pas le choix. Il faut faire confiance au racheteur. Hein. C'est lui qui a les clés maintenant. Il faut lui faire confiance.
Dernière réaction, allez avec Abdel et Bob, notre invité, rapide.
On voit que les clubs français sont très performants en Coupe d'Europe cette année. Ouais. Est-ce que vous qui suivez la Ligue 1 un peu comme nous tous, vous estimez que la hausse du championnat permet ces résultats en Coupe d'Europe?
Il y a surtout un état d'esprit, je pense, qui est intéressant, c'est-à-dire cette idée que la plupart des clubs, de jouer, de prendre le ballon, de créer du jeu, d'avoir des actions offensives, de ne pas seulement être dans la transition, parce que on a souvent été dans un jeu défensif avec des phases de transition où on essayait d'exploiter l'espace pour aller marquer des buts. Là, il y a une idée de création. Même cette règle, à partir des 7 mètres 50, on doit commencer à construire le jeu par des passes courtes au lieu d'allonger, etc. Tout ça contribue à avoir un renouveau dans le jeu français, et certaines équipes l'expriment. Lille, qui par exemple contre Séville, c'est quand même fort de faire des résultats, d'être qualifié en Ligue des Champions, de finir premier. Ce sera pas le Paris, donc c'est la logique absolue. Mais les autres clubs aussi sont qualifiés en Coupe d'Europe. Donc je trouve que le championnat est, pour permettre des qualifications aux Coupes d'Europe, il faut que le championnat soit de qualité, et il l'est.
Un grand merci, Eddie Bob, pour ce moment vraiment très intéressant, avec toutes ces bonnes réactions. Vraiment, mais bien sûr, on parle football, on parle sport co sur l'antenne de Beurre FM chaque soir, 20h, 21h, on le rappelle, un invité de prestige, la personne d'Eddie Bob. Voilà, merci pour le temps accordé à la radio Beurre FM. On reste ensemble, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, pour revenir avec le Boxing Day, sans oublier le Paris Saint-Germain. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live jusqu'à 21h. Et oui, alors on va s'attarder après le football français et africain, allez au football anglais.
Time Sport.
Eh oui, le coach Tollet débute de partout, du jeu, d'une spectaculaire, si je peux me permettre. La Première Ligue nous a donné encore et nous a bien régalé à l'occasion de ce fameux Boxing Day. Eh oui, ce 26 décembre, post-réveillon, Manchester City, par exemple, Leicester, sont sparring partners, excusez-moi, du jour, ont notamment fait un récital, je peux le dire, eh oui, un récital de football. Du côté de l'Etihad Stadium, avec une victoire 6-3 quand même. Il y a des buts.
Ah ouais, il y a eu.
Plus qu'en Liga.
Non mais là vous avez. Il y a un truc qui m'énerve quand même.
Alors, et pourquoi?
Parce que.
Oh, Pep Guardiola, ça va, il est sympa.
Nous, les journalistes, souvent, on préfère pas se rappeler les choses.
Alors.
Il y a 5-6 ans, quand le Barça était à son apogée, et il arrivait, il mettait 5 ou 6, et on disait, oh, c'est un championnat de merde.
Ouais, c'est vrai.
Il y a que deux équipes. C'est n'importe quoi, c'est normal. Là, c'est City qui le fait, et c'est merveilleux. Quel magnifique championnat.
Ah là là,
écoutez, il faut quand même arrêter un peu.
D'accord,
c'est bien que City, aille balayer Leicester, c'est dommage pour Leicester, mais ce que je retiens de cette journée-là, c'est plutôt la performance d'Arsenal qui se retrouve aujourd'hui quatrième, qui est capable d'aller à l'extérieur et mettre 5 buts à l'extérieur. Et cet Arteta-là, il y a 2 ans quand il est arrivé, parce que ça fait justement 2 ans aujourd'hui, enfin hier, c'était 2 ans qu'il était arrivé du côté d'Arsenal, on a tous critiqué parce qu'on l'a tous critiqué.
Il y a encore quelques mois, il était critiqué.
Il n'y avait pas de résultats, mais là, il a réussi à mettre en branle cette équipe qui commence à marcher. Je ne sais pas si ça va durer, s'ils vont terminer en position des Champions League à la fin de saison, mais pour l'instant, ils sont en train de faire une belle saison, nos amis d'Arsenal.
Donc, les
City, c'est normal, Chelsea, c'est normal, quand vous investissez des centaines de millions d'euros, à un moment donné, il faut quand même avoir des résultats. Alors, je retiens surtout, cette victoire à l'extérieur d'Arsenal avec une très jeune équipe.
Pour
City.
Kamel et Abdel.
Juste pour City et Abdel.
Alors,
je vais pas banaliser par rapport à Manchester City.
Alors.
On se rend pas compte, je crois qu'ils ont gagné 7-0 déjà contre Leeds il y a quelques jours. Guardiola, il est en train de martyriser, vraiment, c'est le terme.
Ouais.
Plusieurs équipes, c'était quasiment du jamais vu dans une même saison en Angleterre. Donc, je pense que Guardiola, même si on le connaît, on sait que de quoi il est capable, il a déjà montré, démontré. Il est vraiment en train d'apporter limite révolutionner encore le football anglais. On savait pas que plusieurs équipes pouvaient encaisser autant de buts comme ça. Enfin, c'est impressionnant. On a l'impression que même le prochain match, on se demande combien de buts City va mettre, par exemple. Et ça, c'est un truc. On peut pas banaliser et dire c'est normal, c'est City, c'est normal. Je trouve que c'est des scores, c'est exceptionnel. Et après, oui, bien sûr, il y a eu d'autres équipes qui ont cartonné, dont Arsenal, et dont tu parlais, Juan José, en disant Arteta, il y a 2 ans, certains étaient sceptiques et voulaient même qui s'en aille ou qui n'était pas à la hauteur, en tout cas, du poste. En parlant déjà du mois d'août. Et au mois d'août, je crois qu'Arsenal, ils sont avant-dernier, ou c'est déjà la crise, tout le monde veut le voir dehors. Et là, comme tu l'as dit, il joue limite la Ligue des Champions. Donc,
Arteta qui était donc 3 ans l'adjoint de Guardiola.
Ah ouais.
Par rapport à Bandia, au boxing, ça nous fait 26 buts en 6 matchs. Ça veut dire que quand même, c'est organisé comme ça pour qu'il y ait pas mal de spectacles à voir après Noël. Maintenant, sur tout ce qu'on a dit, c'est vrai que City a l'habitude de démarrer comme ça depuis un certain moment, où il laisse un peu un voire deux concurrents démarrer et eux reviennent très fort sur la deuxième partie de la première partie saison, justement. Après, voilà, il y a Arsenal qui gagne pendant que il y a des matchs qui sont reportés. Eux, ils font le job, donc c'est pas dit que les équipes qui ont des matchs en retard vont les rattraper.
Notamment Tottenham et Manchester United qui ont trois matchs au moins.
Et chacun. Tottenham, j'y viens. C'est vrai que Conte a toujours pas perdu, même si c'est pas le plus beau jeu du monde, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez pragmatique. Il amène quelque chose de nouveau et un peu plus peut-être de discipline. Là, on voyait pas Kane, Son et encore Lucas marquer ces derniers temps. Il retrouve un peu le chemin des filets. Il y a une équipe comme West Ham qui retrouve un peu son statut classique, on va dire. C'est vrai que l'année dernière, au forceps, ils ont réussi à se qualifier en Ligue Europa, que là ils étaient venus titiller en début de saison les premières places, mais maintenant voilà, il y a une défaite hier contre Southampton qui est un peu en difficulté, mais on parle beaucoup des grosses équipes, mais il y a toujours une voire deux qui arrivent à s'immiscer dans le Big Four ou dans le Big Five, et je trouve que West Ham c'est plutôt une belle équipe à avoir joué, qui est assez solide, et voilà, le fait de les voir perdre, c'est pas non plus, ça me fait pas mal au cœur, mais je trouve que quand même c'est à souligner leur bon début de saison.
Ouais, Kamel, justement, football anglais.
Bah c'est vrai qu'on a été servi hier avec pas mal de buts sur toutes les pelouses.
Ouais.
On avait peur un peu que ce soit annulé à cause de la crise sanitaire.
C'est vrai.
Mais finalement, ça s'est bien passé. Il y a eu plein de buts partout et voilà, c'est un régal pour les fêtes. Je pense que le public a été servi.
Ouais, ça c'est quoi, c'est ça.
Ouais. C'était nickel et.
Ouais. Justement, la rencontre assez nickel. Ouais, quand même. Alors, repoussé. Oui, Jason.
Voilà, après, il y a des jugements qui commencent un peu à aller dans tous les sens. Parce qu'il y a des championnats où, quand il y a beaucoup de buts, comme je suis complètement d'accord, quand il y a beaucoup de buts, c'est un championnat moyen, c'est n'importe quoi. Moi, je l'ai entendu pour Lewandowski, par exemple. En Allemagne, il met des triplés. En Allemagne, il y a toujours plein de buts.
Dans ce cas, il faut demander à ces personnes de chausser les crampons et d'aller sur le terrain.
Je suis d'accord avec vous. Donc, c'est pour ça que je rebondis vraiment sur ce qu'a dit Juan José. Et il faut aussi se régaler du spectacle. Et un championnat ouvert et un championnat où il y a beaucoup de buts, je comprends pas pourquoi, pour certains, en tout cas pour beaucoup, parfois, ça veut dire que c'est un mauvais championnat. Mais là, comme c'est l'Angleterre, tout le monde va trouver ça magique. Bon, pour le coup, c'est vraiment magique, mais faudrait que ce soit le même jugement pour tous les championnats.
Ouais.
Je pense. De voir des 5-0, de s'extasier devant des grosses.
C'est vrai ce qu'il dit.
Alors, le coach Tolley.
La Bundesliga a
régulièrement. C'est un classique de ça.
A toujours des gros scores. Mais si on prend nous notre position avec la Bundesliga et la Première Ligue, la Bundesliga, ça reste un championnat qu'on ne connaît pas trop, qu'on découvre un petit peu plus aujourd'hui. Parce que t'as beaucoup plus de joueurs français qui sont exilés là-bas, mais c'est toujours un championnat qui nous attire pas forcément. On regarde de loin un peu le Bayern, même le Bayern, on les critique un petit peu à moitié, mais la Bundesliga a toujours été un championnat spectaculaire, a toujours été un championnat de buts, a toujours eu des 4-2, des 5-3.
La preuve, en Ligue des Champions, le Bayern, ils ont corrigé combien d'équipes? On se rappelle des 7-2, je crois, contre Tottenham, contre Arsenal plusieurs fois, ou à l'Emirates.
Le Barça, ils avaient déjà mis,
à l'époque de Robben Ribéry, ils avaient déjà mis 4 ou 3.
D'accord, quand même.
Mais c'est une équipe, il y avait Dortmund à l'époque contre le Real, je crois, quand Lewandowski était encore là-bas. Et en 4-1, je crois, ils avaient gagné. Enfin, les Allemands ont cette habitude-là, enfin, sans s'égarer de parler de leur rester sur l'Angleterre. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas toujours le même jugement pour tous les championnats.
Parce que les mises en avant, la Première Ligue. Voilà. Du championnat, c'est.
On serait bien surpris. Pardon, Claude, excuse-moi.
Non, vas-y. Bah,
là, sur la première partie de saison, c'est la Serie A où on voit le plus de buts inscrits, avec 574, et la Ligue 1 avec 531 buts. La Première Ligue, ils sont que 4e des plus grands championnats. Donc, ça veut dire que. Aussi, on a pris ce qu'il y a eu dans le passé. On n'arrive pas peut-être à évoluer avec notre temps. Et dans le sens où on dit à chaque fois, c'est là-bas, c'est plus magique et dans un autre championnat.
Il y a des étiquettes. Il y a des étiquettes.
Et surtout, on s'intéresse pas et on veut toujours critiquer un championnat pour dire que celui qu'on regarde est le meilleur. Et je trouve que quand t'es un passionné de football, tu peux avoir des préférences, mais à un moment donné, quand t'as pas d'attache au club, moi personnellement, je suis comme ça. Quand j'ai pas d'attache au club en particulier, je suis là pour voir un bon match. Si ça se finit en 5-4, je préfère que ça soit 5-4, peu importe le championnat tel qu'il soit, que ça finisse en 0. Et la Serie A qui a été beaucoup mis en avant pour son style défensif et son catenaccio, même si ça a changé depuis quelques années. Et comme je le redis, le plus haut nombre de buts dans cette première partie de saison, donc c'est assez surprenant.
Il y a quand même.
On termine concernant
valoriser
la première ligue.
Valoriser un championnat, il y a les stats, c'est clair. Les nombres des titres qu'on est capable de gagner dans les différentes coupes européennes. Mais il y a quand même une autre caractéristique. Et en fait,
c'est
la capacité d'un championnat à faire jouer ses équipes dans les compétitions européennes. Parce qu'à Paris, enfin en France, vous avez toujours de toute façon le PSG comme du côté de l'Espagne, vous avez le Real et le Barça. Mais j'étais en train de regarder, parce que souvent on me pose la question, et aujourd'hui, nous avons le Real Madrid en Europe, on a Séville, mais on a aussi le Betis de Séville. On a aujourd'hui, qui pourrait jouer, parce qu'ils sont qualifiés pour la prochaine Champions League, pour l'instant, Rayo Vallecano, qui est une équipe de la banlieue de Madrid. On a Villarreal, qui est encore en compétition. Donc, l'Espagne, par exemple, est capable, tous les ans, de vous amener des équipes dont vous n'avez jamais peut-être entendu parler. L'année dernière, c'était Grenal qui est arrivé jusqu'à 16e de finale de l'Europa League. Donc, et c'est ça aussi un championnat, la capacité d'envoyer des clubs et qu'ils fassent des choses. Ce n'est pas envoyer un club à un moment donné pour aller être éliminé en face des poules d'Europa League. Comme ça, c'est arrivé par le passé avec Ligue, avec Lille ou avec Marseille. Ça ne sert à rien. L'important, c'est la capacité, encore une fois, du championnat d'envoyer des nouveaux clubs en Europe. Et là, aujourd'hui, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, et à la queue de tout ça, c'est la France.
Ouais.
C'est pour ça qu'il faudrait valider ce qui se passe de bien en France en ce moment.
Ah bah justement.
Bob juste au téléphone avant. Ouais. Le niveau du championnat français a l'air de bien repartir. C'est intéressant ce qui se passe. Donc il faudrait que ce soit validé par des beaux parcours en Coupe d'Europe. Là, tout le monde est qualifié.
On va voir justement les parcours en Coupe d'Europe. On va le faire assez vite. On y va.
Time Sport, le mode pressing.
Jason, il est toujours. Ah bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Perspicace ou encore même dans l'euphorie. On l'espère en tout cas, tout comme le Paris Saint-Germain qui espère récupérer un sacré pactole avec les indésirables. Eh oui, que dire là aussi, Jason Abdel. Ah,
il y a Rafinha, soupir. Rafinha, il est dans l'avion.
Rafinha, il est dans l'avion.
Il n'est pas dans l'avion, il est sur place. Il est arrivé déjà.
Il est sur place, apparemment c'est un prêt.
C'est un prêt, sans option d'achat.
Ne prend pas l'intégralité.
Et quel club Paris, quel club là.
On parle du transfert de
Real Sociedad.
Spécialisé bientôt là.
C'est ça.
À la
Real Sociedad.
Ah, est-ce que vous parliez de l'avion,
non.
Tout ça.
Non, mais Rafinha. Ça fait voyager le coach Tolé.
Plus que des indésirables,
il reste quand même certaines valeurs marchandes du côté du PSG, et pas celles qu'on pense. Rafinha, voilà, c'est loin d'être le premier choix, mais quand on voit l'effectif du PSG qui est entre guillemets surpeuplé, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément besoin de tous ces joueurs. Je m'interroge sur le fait que certains postes contiennent trois joueurs alors que c'est pas forcément nécessaire. À l'heure actuelle, quand on voit des joueurs comme Icardi ou encore comme Diallo ou même Kerrer, ça semble les joueurs les plus entre guillemets bankable, je mets bien des guillemets. Et même si c'est quelque chose qui n'arrivera pas, voire très rarement du côté du PSG, il faudrait commencer, si on veut avoir trois joueurs par poste, à intégrer des jeunes du centre de formation. Malheureusement, c'est peut-être utopique, peut-être que je vois trop la vie en rose, mais je pense que il faudrait un moment regarder du côté des U19 qui font une très belle saison depuis cette année, et des joueurs qui ont toujours performé. Ouais. On l'a vu avec Simons, avec Garbi, avec El Shaddai, Bichouabu, qui sont rentrés notamment en Coupe de France. Et c'est comme ça en fait qu'on peut faire connaître à ce genre de joueurs le haut niveau. Et voilà, les joueurs que j'ai cités au début, je pense que c'est les seuls qui peuvent partir et rapporter un peu de liquidité au Paris Saint-Germain.
Bon, aujourd'hui, hein, on va parler des noms. Donc c'est Rico, le troisième gardien, qui doit partir. Sauf que ça coûte pas trop cher de le faire partir.
Il préfère garder.
Et il faut savoir que le PSG doit vendre pour 100 millions d'euros à peu près. Hein, pour compenser le déficit des 200 millions d'euros qui a été calculé. Donc il y a Rico, il y a Thilo Kehrer aussi, qui est sur le départ. Au moins, c'est l'intention du PSG, ainsi que Julien Draxler, qui pourrait partir. Alors, tous ces joueurs-là n'apportent pas beaucoup d'argent. Celui qui peut apporter de l'argent, c'est Icardi, mais qui va payer aujourd'hui 30 millions pour Icardi. D'ailleurs, il a coûté 50 quand on l'a fait venir. Alors, l'idée, ça serait de le faire partir en Italie avec un échange avec Arthur Melo, qui pourrait venir pour renforcer le centre du terrain du PSG. Ça coûterait pas beaucoup d'argent du côté du PSG. Et on a parlé du cas de Rafinha, ça y est, c'est fait. Donc, il est à la Real Sociedad jusqu'à la fin de saison. Et puis, il y a le cas des Kurzawa, qui apparemment aurait déjà demandé justement de sortir de l'effectif du PSG, mais pour partir du côté de la Lazio, mais pour l'instant c'est pas encore fait. Donc effectivement il y a des noms qui pourront sortir du PSG, mais qui va payer pour ces joueurs, c'est pas clair.
En une phrase peut-être, le coach Tolé, rapide.
Il n'y a pas de stratégie au PSG en termes de recrutement. Tu recrutes
la stratégie.
Stratégie. Donc malheureusement, ce qui est dit Abdel, fait moi 15-20 ans que j'entends parler qu'il y a des super jeunes au PSG, mais ça fait pas partie de la politique malheureusement du club parisien.
Un grand merci à Kamel et aussi, sans oublier Abdel, le coach Toulé, Juan Trossé et aussi Jason, de m'avoir accompagné. On se donne rendez-vous dès demain. N'oubliez pas la suite des programmes ce soir à partir de 22h avec Vanessa. Un grand merci à toutes les auditrices et les auditeurs. Et nous, on se retrouve à partir de demain, mardi 20h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.